Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Un ruban rose, symbole des nombreux événements et initiatives sous la bannière de la 27e édition d'Octobre Rose, ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. Mobilisation médicale et citoyenne pour sensibiliser sur le premier des cancers féminins en termes de fréquence comme de mortalité. On estime qu'en France, une femme sur huit est directement concernée par le cancer du sein. Des femmes inégales face à cette maladie en fonction de leurs antécédents familiaux, de certaines prédispositions génétiques, de par leur âge, de par leur mode de vie, la consommation de certains produits, des facteurs liés à l'environnement, la prise de certains médicaments, inégales aussi en fonction de leur lieu de vie, de l'accès aux soins, facteurs géographiques et sociaux dans le monde qui vont conditionner bien sûr l'accès au traitement, mais peut-être surtout dans un premier temps à l'information et au dépistage. Alors au-delà des encouragements, des campagnes pour convaincre les femmes de se faire examiner, de passer une mammographie tous les 2 ans à partir de la cinquantaine, encore faut-il améliorer la sensibilisation afin de mieux connaître les risques et en cas de diagnostic, permettre aux patientes d'être prises en charge correctement, avec des traitements accessibles, de pouvoir proposer le soutien psychologique adapté à cette épreuve, dépister, traiter, accompagner, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui partout sur la planète. Prévention, lutte contre le cancer du sein, à l'occasion d'Octobre Rose dans Priorité Santé, pour répondre à toutes nos questions avec nous en studio. Docteur Nasrine Khaled, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue, oncologue à l'Institut Curie à Paris. Tout à l'heure, nous donnerons la parole à Béatrice Thomas, elle est patiente partenaire à l'Institut Curie. Et nous retrouverons en ligne de Kinshasa, Célestin Kachuga Madi, coordinateur de l'ONG ASICAS International DRC, association chargée de la prévention et de la lutte contre les cancers du sein et du col utérin en République démocratique du Congo. En fin d'émission, on va retrouver la chronique sport et santé du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
Octobre rose, maître mot, c'est le dépistage. Docteur Nasrine Khaled, bien sûr. Au cours de cette émission, vous allez nous expliquer pourquoi ce dépistage précoce est tellement important, on va le dire essentiel pour commencer. Dépistage mode d'emploi, peut-être. Sur quel examen, sur quel geste au pluriel repose le dépistage du cancer du sein?
Alors, le dépistage de cancer du sein est fondamental parce que plus un cancer du sein est pris tôt, meilleur est le pronostic, et donc les cancers du sein pris très à temps, ils ont une guérison, alors que les cancers du sein avancés, malheureusement, ils peuvent métastaser et mettre la vie en jeu. D'autre part, un cancer du sein pris tôt a des traitements qui sont beaucoup moins lourds et donc mieux supportés pour la patiente et moins coûteux aussi pour les patients et pour la société. D'où l'intérêt de dépistage. Alors, comment on peut dépister? On peut commencer déjà par un dépistage personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se palper les seins soi-même, ce qu'on appelle l'autopalpation. Alors, l'autopalpation, c'est très facile. Chaque femme ou jeune fille, pas très tôt non plus, vers 25, 26 ans, ou quand elle commence une contraception, elle doit palper ses seins, pas tous les jours, bien sûr, mais tous les 3 ou 4 mois. Et ça, normalement, cet examen est facile pour chaque personne, dans la mesure où elle palpe ses seins. Et est-ce qu'elle trouve une modification au niveau du sein? Est-ce qu'il y a une boule au niveau d'un sein? Est-ce qu'il y a un écoulement au niveau d'un sein? Est-ce qu'il y a une modification cutanée au niveau d'un sein? Il faut pas oublier les creux axillaires. Au niveau des aisselles aussi, il faut palper pour voir s'il n'y a pas de ganglion. Et l'ensemble de cet examen qu'on appelle autopalpation conduit à voir est-ce qu'il y a une anomalie. Alors, si cette anomalie persiste, parce que 9 cas sur 10, c'est pas des choses méchantes, hein. On peut avoir un kyste, un fibrome, un lipome, c'est-à-dire une boule de graisse. Mais si cette boule persiste, qui fait pas mal et qui est persistante dans le temps, il faut amener la personne à consulter, peut-être pour rien, mais au moins le médecin ou le gynécologue pourra faire un examen complémentaire qui peut être une échographie mammaire ou une mammographie, qui est surtout l'examen de dépistage des cancers du sein.
Alors cette palpation, la gynécologue peut aussi le faire en consultation. Docteur Nasrine Khaled, quand on parle de ce cancer, on évoque les facteurs de risque. On va peut-être commencer par l'âge.
Alors, ça c'est important, l'âge, parce que, comme on a dit un peu précédemment, il y a des familles à risque où le cancer du sein peut arriver tôt. C'est pour ça qu'il faut quand même penser, chez une jeune femme, même 35, 40 ans, quand une boule est là, il faut quand même faire l'ensemble des examens pour mettre le cancer du sein de côté. C'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle on pense, mais enfin, il faut y penser. L'âge moyen dans la population générale de survenue de cancer du sein, c'est vers 70 ans. Ce qui fait que, en France, on a mis en place un programme de dépistage organisé à partir de 50 ans jusqu'à 75 ans, qui est basé sur une mammographie de dépistage qui est tous les 2 ans. C'est pour ça qu'on commence quelques années avant l'âge moyen de survenue de cancer du sein. Mais j'insiste que toute boule suspecte, quel que soit l'âge, mérite des examens complémentaires pour ne pas passer à côté d'autres choses. Donc l'âge est c'est pas un facteur de risque, mais c'est l'âge moyen, effectivement, c'est vers 70 ans. Après, il y a d'autres facteurs qu'on peut considérer comme risque. C'est avant tout ce qui a été prouvé, c'est les antécédents familiaux. Comme on en a déjà parlé, il y a des familles à risque de cancer du sein. S'il y a des familles où il y a association cancer du sein ou des ovaires, c'est des femmes qui peuvent être considérées à risque. Ça, c'est la première cause importante qui a été découverte. Malheureusement, je dis malheureusement parce qu'on aurait su vraiment la cause du cancer du sein, c'est que l'ensemble des cancers du sein d'origine génétique ne représente pas la majorité des cancers du sein. C'est moins de 10% des cancers du sein. Peut-être aussi, qu'il faut rester humble, c'est qu'on ne connaît pas toutes les gènes. On ne connaît que 3 gènes surtout. Donc peut-être qu'il y a d'autres gènes qu'on ne connaît pas. Après, il y a d'autres facteurs, c'est-à-dire les grossesses tardives, les traitements hormonaux qui n'ont pas été bien prescrits ou inadaptés. Après, il y a des cofacteurs, le tabac, l'alcool, l'obésité, c'est important. L'obésité, pourquoi ? Parce qu'il y a la graisse qui s'accumule dans notre corps et la graisse est un réservoir d'hormones et peut-être qu'il y a un rôle, effectivement, des hormones accumulées dans le corps qui peut jouer dans la jeunesse des cancers du sein.
Et c'est pour ça qu'il y a un interrogatoire, hein, quand les femmes vont voir leur gynécologue, leur médecin, quand on en vient justement à s'intéresser au cancer du sein, on va poser toute une série de questions bien précises.
Oui, l'interrogatoire est important, très important, parce que ça permet justement de voir si cette patiente a des facteurs de risque et à ce moment-là, orienter mieux les examens et aussi la sensibiliser. La gynécologue, normalement, le sein fait partie des organes gynécologiques, donc à chaque examen, quand on va chez le gynécologue, la gynéco doit palper les seins systématiquement.
Alors, dépistage de routine, qui a chez vous débouché ? Béatrice Thomas, bonjour.
Oui, bonjour.
Qui a débouché sur un diagnostic, hein. Vous êtes patiente partenaire à l'Institut Curie. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce rôle, hein, de patiente partenaire parce que c'est très intéressant, la nature de votre fonction. Mais d'abord, votre expérience personnelle pour commencer, si vous le voulez bien. Dans votre cas, Béatrice Thomas, est-ce qu'il y avait des antécédents familiaux ?
Aucun antécédent familiaux.
Alors, comment le diagnostic a-t-il été posé ? Ça s'est passé comment ? Quels souvenirs vous en gardez ?
Et donc, j'ai bénéficié de ce dépistage national qu'on a la chance d'avoir en France depuis 10 ans, dont parlait le docteur Nasri tout à l'heure. Et donc, j'ai reçu mon courrier de l'ADMI, parce que j'habite dans les Yvelines, c'est le dépistage de masse des Yvelines, et je suis allée faire ma mammographie qui était suspecte. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris le 1er avril 2016, oui, je sais, mais c'est pas risible, c'était pas un très bon poisson d'avril. J'ai appris mon cancer, voilà. Et l'avantage aussi de ce dépistage national, c'est qu'il y a une seconde lecture pour confirmer le diagnostic. Donc c'est vraiment rassurant.
Diagnostic, voilà. Annonce, et puis après, il va y avoir le protocole.
Mais d'abord, il y a la mammographie qu'on fait chez le radiologue,
oui.
Qui est suspect. Quand on est dans ce système-là de dépistage national et pas dans un cadre juste avec une ordonnance pour faire sa mammographie, il y a une relecture.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est très important. Mm-hmm. J'invite les femmes à vraiment suivre ces recommandations et ces dépistages organisés. Voilà.
Alors, on revient au protocole. On vous dit, vous avez un cancer. Après, il faut savoir de quel cancer il s'agit. Et en fonction, justement, de la nature de votre maladie, il va y avoir tel ou tel traitement qui va être préconisé.
Exactement. Donc, c'est là que j'ai été pris en charge par l'Institut Curie et qui m'a opéré, soigné, guéri. Et je fais partie des 9 cancers sur 5, sur 10 guéris.
C'est important de le dire.
Parce que pris à temps.
Parce que vous le disiez tout à l'heure, l'annonce et le coup de massue, mais 9 sur 10 qui guérissent, c'est très important de le dire. Ça veut dire qu'il faut se faire dépister parce qu'on n'a pas des chances. On a 90% de chances de s'en sortir. C'est essentiel de le dire.
Exactement. Et pour mon cas précis, à l'autopalpation, je n'avais rien détecté.
Mmh. Donc, cette mammographie était absolument essentielle.
Voilà.
Aujourd'hui, les suites, est-ce qu'il y a encore des séquelles de cette prise en charge?
Alors, j'ai des séquelles de douleurs neuropathiques chroniques.
Et c'est dans le bras? Dans le bras?
Oui, dans le bras et dans la zone opérée et puis qui irradie dans le bras. Et c'est ce qui m'a conduit à devenir patient expert de ma pathologie d'abord, à la recherche toujours de solutions pour améliorer les choses, pour moins souffrir. Et donc j'ai acquéri un savoir expérientiel et je suis devenue patiente expert.
Ça veut dire qu'à la fois vous expliquez la maladie, vous incitez au dépistage, vous faites part de votre expérience, mais au-delà, vous avez été formée.
Voilà, j'ai été formée à l'Université des patients, créée par Catherine Tourette-Turgiste, qui donne accès aux patients à une formation diplômante. Et j'ai suivi le parcours de diplôme universitaire d'éducation thérapeutique, où je me suis trouvée avec des soignants pour poursuivre une formation et être à même de devenir non plus seulement expert de mon côté, mais aussi ressources et partenaires. Ressources pour les patients, partenaires pour les soignants. On entend ces trois termes pour définir le parcours de patient expert.
Un tiret. Béatrice Thomas, il y a l'expérience, il y a aussi le réconfort. J'aimerais pour conclure que vous nous parliez de votre coussin thérapeutique. De quoi s'agit-il? Moi, j'aime bien, j'ai vu, c'est très joli. Allez, décrivez-nous ça.
Donc, j'ai monté j'essaye, en fait, de mobiliser les compétences d'avant aussi, et de faire des ponts. Je viens de la presse écrite, et j'ai monté un partenariat avec la Ligue contre le cancer et le magazine Modes et Travaux pour faire coudre des coussins en forme de cœur, qu'on place sous bras, du côté du sein opéré, et qui soulage de toutes les tensions post-opératoires et qui, en plus, est un vrai réconfort, un doudou, me disent les patients.
Voilà. J'allais vous le dire, justement. Donc, c'est un cœur, on le met sous le bras, ça évite d'appuyer, ça permet d'être un peu en suspension, et en même temps, comme il est très joli, et ben, ça fait du bien, tout simplement. C'est une sorte de bouillotte doudou qu'on met sous le bras.
C'est ça, un doudou qu'on se
Voilà, et ben ça fait du bien. On vous remercie beaucoup pour votre expérience parce qu'on comprend bien que c'est important d'expliquer, c'est important de savoir, c'est aussi important de soulager. Docteur Nasrine Khaled, qu'est-ce que les patients experts vous apprennent?
Ah, beaucoup, 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 parce que lors de la consultation, c'est vrai qu'on annonce les traitements, on reste assez technique, même si on prend le temps, c'est pas tout à fait la même chose. Et les patientes experts, non seulement ils apprennent aux médecins leur vécu, donc ça permet de combler nos lacunes quand on donne pas toutes les informations, mais aussi ça permet un dialogue qui est quand même partagé entre patiente et son médecin. Alors, à l'Institut Curie, on a de la chance d'avoir aussi des endroits où les patients peuvent venir, peuvent parler dans des lieux hors de l'hôpital de façon assez conviviale. Béatrice le sait, par exemple, la maison des patientes, c'est un endroit où j'y vais bénévolement régulièrement pour vulgariser, parler des traitements et les vulgariser. Parce que tous les effets secondaires ne peuvent pas être détaillés lors d'une consultation. Mmh. Et chaque effet secondaire est variable d'une personne à l'autre aussi. Bon, Béatrice, elle a les neuropathies, mais il y en a d'autres qui ont d'autres problèmes aussi. Donc, c'est du cas par cas. Et donc, les patientes expertes permettent de qu'on ouvre plus l'œil sur ces effets secondaires. La technicité et le traitement, c'est une chose. Mais après, il y a les séquelles et le vécu de la maladie par chaque patiente, c'est autre chose. Et ça, c'est pour moi aussi importante que le traitement.
Docteur Carlet, tout de suite, on va donner la parole aux auditrices de l'émission.
Allô, c'est Priorité Santé.
Et première auditrice, en ligne de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, c'est Madeleine. Madeleine, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors, racontez-nous d'abord, si vous le voulez bien, Madeleine, dans quelles circonstances votre cancer du sein a été dépisté ?
J'avais un écoulement au bout du sein. J'ai fait une mammographie et puis ils ont fait une biopsie. Et on a vu que c'était un cancer très petit, il va avoir 3 mm.
Donc il y avait un signe extérieur. On vous a expliqué la nature de votre tumeur ?
Oui, il y avait un signe extérieur. C'est-à-dire sur le bout du sein, il y avait comme une croûte, croûte que j'ai enlevée. Et quand j'ai enlevé la croûte, j'ai apprécié, il y a un liquide.
C'était quoi cette tumeur précisément ? On vous a donné un nom précis ?
Ils ont dit un carcinome, je crois,
Et la prise en charge, on vous a dit quoi ? On vous a donné quel traitement ?
On m'a fait une tumorotectomie. Ils en ont enlevé juste la tumeur, on n'a pas enlevé tout le sein.
D'accord. Donc il y a eu de la chirurgie et après il y a eu un traitement ?
Oui, ils m'ont donné des tamoxifènes. Ils ont dit que le cancer était hormonodépendant. Ils m'ont mis sur tamoxifène.
C'est quoi ce traitement, docteur Calais ?
Alors, les cancers du sein sont très variables d'une personne à l'autre. C'est pour ça que l'analyse de la tumeur est importante. Il y a des cancers qui sont hormonodépendants, c'est-à-dire qui sont sensibles aux hormones. Alors, dans le cas de Madeleine, quand on a analysé la tumeur, on a vu que son cancer du sein était sensible aux hormones. Et on a donné un traitement anti-hormonal pour éviter les rechutes de ce cancer. Ça veut dire que ce traitement bloque d'éventuelles autres cellules cancéreuses dans le corps de Madeleine et ces cellules meurent sur place. Alors c'est un traitement, on dit une hormonothérapie, mais en fait c'est une anti-hormone estrogène. Alors c'est sous forme de comprimé. C'est pas une chimiothérapie, c'est une hormonothérapie qui donne des bons résultats, très bons résultats même pour les rechutes des cancers du sein traités, mais aussi ça protège l'autre sein chez Madeleine. Donc c'est pour ça que la durée du traitement est importante. Normalement, dans le cas de Madeleine, c'est à peu près 5 ans. Alors, je ne sais pas si elle prend 5 ans ou est-ce qu'elle a arrêté.
Vous en êtes où, Madeleine, par rapport au traitement ? Jusqu'à présent, vous le suivez et vous en êtes où ?
Oui, c'est là mon problème. C'était en 2016, donc ça va faire 4 ans, 3 mois par là que je prends cet amoxifène. Et je veux savoir si je peux arrêter. Du fait que durant les 4 ans, chaque année, je faisais une mammographie et le résultat était bon.
Et alors, vous voulez arrêter, Madeleine, parce que vous en avez marre, parce que vous avez des effets secondaires ?
Oui, c'est ça le problème.
Et qu'est-ce que vous a dit le médecin ? Il vous a dit de le prendre combien de temps ?
Il m'avait dit de prendre 5 ans.
Et quand le médecin vous dit de prendre 5 ans et que vous avez envie d'arrêter avant, qu'est-ce que vous pensez que va être la réponse de Nasrine Calais ? Je vous entends sourire, c'est pas drôle, mais franchement, je serai à l'école, je vous montrerai le doigt comme ça en disant Madeleine, soyez raisonnable.
Non, mais Madeleine a fait le plus dur quand même.
Bah oui,
vous
bah
êtes
oui.
au bout là, c'est très bien. Déjà, il y a une sacrée différence entre 1 an et 3 ans. Vous avez fait plus. Bon, peut-être vous pouvez arrêter 2 mois avant, mais allez-y encore un peu. Mais je sais qu'il y a des effets secondaires hein, parce que c'est une anti-hormone. Et comme vous n'êtes pas âgée non plus, il y a des effets secondaires. peut-être un effet anti-hormonal est plus important. Mais allez, encore quelques mois.
Et quand on dit voilà. Un effet anti-hormone, notamment sur la libido.
Alors, c'est sur plusieurs choses. C'est qu'elle peut avoir des bouffées de chaleur, parce que c'est anti-hormone estrogène. Elle peut avoir des douleurs osteo-articulaires, parce que ça donne des douleurs un peu comme de l'arthrose ou des crampes. Elle peut aussi avoir éventuellement d'autres symptômes, type des signes gynécologiques, c'est-à-dire comme des pertes gynécologiques. Mais bon, elle a fait le plus dur, Madeleine. Hein. Maintenant, le bénéfice est beaucoup plus important que le risque. Donc, allez-y. Faites encore quelques mois. Je vous dirais peut-être 2 mois avant, vous pouvez arrêter. Mais là, allez-y encore un peu.
Encouragement, Madeleine. Voilà. Courage, courage. Le plus dur est fait. On vous remercie beaucoup. Hein. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va rester d'ailleurs en Côte d'Ivoire. On va rester à Abidjan avec une autre auditrice en ligne. C'est Laure. Laure, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, on vous écoute, Laure. Vous avez été opérée il y a déjà plusieurs années.
Oui, déjà 13 ans. 12 ans, je dirais, c'était en 2008. Donc, ablation du sein, malade. Vu le volume du sein, il fallait l'enlever. Et puis, chimio, radiothérapie. Mais c'était pas à Abidjan. Mais ma question, c'est de savoir pourquoi on met des agrafes à l'intérieur. Je sais que c'est en vue de la reconstruction. Mais comment on fait avec ces agrafes quand on ne veut pas se faire reconstruire?
Alors, Laure, moi, j'ai déjà un premier point. Donc, on vous a retiré un sein, pour parler tout simplement. Aujourd'hui, le cancer, c'est fini? Ça va? Vous êtes guéri?
Oui. Oui, la rémission est totale depuis 2013.
Donc aujourd'hui, c'est sur la qualité de vie à cause de ces agrafes qui vous embêtent. C'est quelque chose qui vous dérange dans votre corps.
Oui, par moment, il y a des piquements. C'est pas permanent, mais il y a des moments où ça dérange.
Docteur Nasrine Khaled, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que le traitement a été efficace.
Bien sûr, Laure, c'est très bien.
Et maintenant, la deuxième chose sur la présence de ces agrafes, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Alors, en fait, on appelle plutôt les clips, nous, parce que en fait, ce qu'il faut que l'on comprenne, c'est qu'à l'endroit où il y avait sa tumeur, ils ont mis ces points de repère qui sont des clips, parce que s'il y a une rechute, il faut savoir à l'endroit de la tumeur. Donc, c'est un repère pour les examens ultérieurs, par exemple pour les échographies. Deuxièmement, cet endroit, effectivement, peut avoir des cicatrisations un petit peu fibreuses qui peut un petit peu tromper le médecin lors de la surveillance. Donc, c'est pour ça qu'on met les clips ou les agrafes. Alors, c'est vrai que si les agrafes, comme elle dit Laure, moi j'appelle ça clip, sont situées sur le trajet de certains nerfs, parfois elle peut avoir des sensations de picotement comme de l'électricité. Si elle voulait faire une reconstruction mammaire, effectivement, lors de cette reconstruction, on pourra enlever ces clips. Mais pour l'instant, si elle veut pas le faire, il faut le garder. Alors, si j'ai bien compris, elle a eu la radiothérapie localement. Et réintervenir juste pour enlever les clips, c'est un petit peu compliqué dans la mesure où elle a eu des rayons sur cette cicatrice de sein. Et que pour la cicatrisation, c'est un peu compliqué. Ce que je conseille alors, c'est qu'elle peut faire des exercices, des massages et des drainages qui peuvent un petit peu assouplir tout ça et qu'elle aura moins mal.
Voilà pour ces conseils, Laure. On vous souhaite une excellente journée à Abidjan. On prend un dernier auditeur. C'est Bernard qui nous a joint. Il est au Bénin, à Cotonou. Et Bernard, bonjour.
Bonjour, Caroline.
Vous nous appelez au sujet de votre maman, de votre mère. Alors, décrivez-nous son état de santé aujourd'hui.
Ok, c'est à propos de ma maman. Elle a été diagnostiquée à un stade avancé en janvier dernier. Donc, après le dépistage, on a eu à faire quelques séances de chimiothérapie au CNHU de Cotonou. Et selon le médecin, c'est après ces premières séances de chimiothérapie qu'on devait passer à l'ablation du sein. Mais alors, si prise à la fin des séances de chimio, le médecin a dit qu'il faut encore faire d'autres séances avant de passer à l'ablation du sein. Surtout, maman était complètement fatiguée et puis elle supportait à peine le traitement. On a dû arrêter. Mais aujourd'hui, son état s'est empiré, le sein a une plaie, la plaie a complètement empiré le sein et ça coule tout le temps et ça sent maman est de plus en plus fatiguée chaque jour. Hein. On ne sait même plus quoi faire. Est-ce qu'on peut trouver d'autres traitements qui sera moins coûteux, moins douloureux, plus possible qu'elle puisse supporter ça? C'est ça qu'on est en train de chercher, mais on n'a pas encore trouvé.
Docteur Nasrine Khaled, la chimiothérapie avant l'opération, c'est pourquoi ?
Alors, vous voyez, ça, c'est le cas typique, la maman de Bernard, c'est que le cancer du sein a continué à évoluer à bas bruit, ce qui fait que le cancer a avancé, il a envahi tout le sein, et du coup, on fait la chimiothérapie qu'on appelle néoadjuvante, c'est-à-dire avant une chirurgie, pour diminuer le volume de la tumeur, et entre guillemets, si vous voulez, je veux résumer, c'est refroidir la tumeur, pour pouvoir intervenir sur un terrain qui n'est pas un terrain d'évolution de cancer. Donc, c'est pour ça qu'on fait souvent la chimiothérapie avant la chirurgie, c'est ce que je disais au tout début, c'est que vous voyez, là, le cancer est avancé, donc le traitement est lourd. Cette chimio n'est pas toujours bien supportée, comme dit Bernard pour sa maman. Bon, maintenant, malheureusement, la tumeur a dû évoluer sur place, et du coup, il y a une plaie qui s'est construite, c'est ça qui coule. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quelle est la nature exacte de cette tumeur, mais si c'est hormonodépendant et que la maman de Bernard est très fatiguée, elle peut bénéficier d'une hormonothérapie qui est en comprimé, qui va freiner l'évolution. Sinon, malheureusement, il faut opter pour une chirurgie, même si elle est fatiguée, de façon à enlever le sein pour qu'il n'y ait pas une évolution locale.
J'ai une autre question, Bernard, parce que vous avez dit tout à l'heure que ce soit moins douloureux, aussi que ça coûte moins cher. Est-ce que pour vous, il y avait le frein financier qui fait que, justement, il n'y a pas pu y avoir cette opération ?
Non, puisque après les premières séances, le docteur a dit qu'il faut encore faire une autre séance qui sera encore plus coûteuse. C'est vraiment à cause de l'état de fatigue de maman. Elle ne veut pas aussi qu'on dépense trop. Donc, actuellement, elle n'accepte même plus les soins et... Le cancer a évolué déjà dans tout son corps, même en début de paralysie déjà. Donc,
et là, vous auriez les ressources financières pour conduire justement cette opération, pour la ramener au service, à l'hôpital et qu'elle soit opérée, c'est possible ou pas ?
Elle était allée à l'hôpital de Vivier, qui est un peu loin de Cotonou.
Ouais.
Et le docteur de là-bas l'a ramené, l'a dit de repartir voir son médecin de CNHU.
Ouais.
Et maman, sachant que M. Senachu va encore prescrire la chimie avant l'opération, maman a refusé.
Elle a refusé. Et vous pensez, vous pouvez la convaincre d'y aller, justement, l'accompagner, peut-être avoir une amie qui la rassure pour dire que maman, c'est la seule solution aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour toi?
Nous sommes 8 enfants, tous les 8 on a essayé, mais depuis qu'on essaye, maman refuse. Elle ne veut même plus entendre parler de soins ni de quoi que ce soit. Elle veut des traitements, des comprimés, tout comme ça, prendre ce qu'elle veut. Et on n'en trouve pas.
C'est une vraie question difficile aussi. Après, c'est le choix de la personne qui n'a pas envie de souffrir, qui n'a pas envie non plus de subir des traitements qui sont très douloureux. Nasrine Khaled, c'est aussi quelque chose, on y est confronté tous les jours à ces questions.
Oui, mais dans ce cas, je pense qu'il faut que quelqu'un explique bien à votre maman que l'opération, paradoxalement, même si on enlève le sein, c'est une opération qui est en surface. Donc les suites opératoires sont pas très importantes, donc elle pourra le supporter.
Elle pourra être soulagée.
Oui, elle pourra être soulagée parce que laisser comme ça, c'est sa qualité de vie aussi qui va être touchée. Quelque chose qui est en une plaie qui coule et en plus ça peut avancer à bas bruit à d'autres organes. Donc moi je pense qu'il faut la convaincre pour faire une ablation du sein.
Et que le médecin lui explique bien que là, elle souffre et qu'elle sera soulagée après.
Parce
que c'est vrai que quand on souffre d'une lésion et que la chimiothérapie a des effets secondaires, on va dire encore pire que la maladie, on a du mal à comprendre.
Exact.
Et pourtant, il y a une utilité derrière.
Ah bah oui, bien sûr.
C'est essentiel de le rappeler. Merci beaucoup, Bernard. Bon courage à vous et à votre famille. Après cet échange avec les auditeurs, Dr Khaled, vous restez avec nous. Petite pause en musique tout de suite avec Kayla Kak. Collaboration avec Kadi Diop pour ce titre Femme Fatale.
Manela Ricana, yete kan colon, e waran fe colon. E mutima, monero swima. Mwali mamu yete kanambe. Yomaya nun boteraba, mumunabe.
Mumunabe.
Wotomu tori gine tomura. Awara mufini bangera umasera. Gine ya mufa monera. Non witi manenga kala, wora la nara. Kali, mumari gimu vere mumafera. Dumye, mutana na yarera. Guinée-Bidine, la fierito, rassemble l'angle et ravolina.
On se retrouve dans Priorité Santé, Octobre Rose, lutter contre le cancer du sein, toujours en compagnie de notre invité en studio, Dr Nasrine Khaled, gynécologue-oncologue à l'Institut Curie à Paris. Dr Khaled, un élément qu'on avait évoqué pendant le confinement, parce qu'à côté de toutes les émissions sur le virus, sur la recherche, sur les soignants, eh bien on avait parlé des autres maladies, il y avait le diabète, il y avait l'hypertension, et les cancers bien sûr, parce que pendant la crise, les maladies elles sont toujours là. On s'était posé la question sur cette prise en charge, alors que les hôpitaux étaient débordés, un certain nombre d'opérations avaient été déprogrammées. Aujourd'hui, est-ce que vous avez du recul par rapport à cette prise en charge des patientes traitées pour un cancer du sein? Est-ce que vous avez réussi finalement à les faire revenir dans vos services?
Oui, alors durant ces 3 mois de confinement qui étaient très difficiles pour tout le monde, pour les patientes et pour le personnel médical bien sûr, on a été confrontés à divers problèmes. C'est vrai qu'on a dû s'adapter. Pour les examens qui n'étaient pas très urgents de surveillance, on appelait les patientes pour reculer ces examens, par exemple mais avant ça, on passait par une téléconsultation pour savoir si la patiente allait bien, s'il n'y avait pas d'autres signes. Et si c'était par exemple pour une mammographie de surveillance, on a décalé toutes ces mammographies, les examens complémentaires, ce qui fait que là, on est assez surchargé parce que on a reculé les examens. Pour les traitements, si c'était des traitements de cancer qui étaient quand même menaçants, on les a pas annulés. Pour les petits cancers, c'est vrai, pour certains petits cancers, on a dû reculer de quelques semaines l'intervention. Et après, pour les chimiothérapies, on a dû s'adapter de cas par cas. Parfois, on a reculé d'une semaine les chimiothérapies et parfois, dans certains cas, on a dû modifier la chimiothérapie, c'est-à-dire au lieu de passer par voie intraveineuse, on a eu recours à des traitements qui étaient pris par la bouche que la patiente pouvait prendre à la maison. Donc, toutes ces mesures ont fait qu'on a pu tenir, parce qu'il ne faut pas oublier que dans un centre anticancéreux, on avait aussi des cas de Covid. Donc, on a eu des services Covid qu'il fallait gérer, des patientes qui avaient le cancer, qui avaient le Covid. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on arrive à gérer. On est un peu surmené au niveau des patientes parce que les malades ont été déplacés. Mais dans l'absolu, comme ça, ça va, on arrive.
Docteur Khaled, quand on parle de retard de dépistage, hein, c'est bien tout l'objet de cet Octobre Rose. Retard de prise en charge, le message à faire passer, à faire passer aux femmes, bien sûr, sans paternalisme, hein, c'est pas le genre de la maison, mais c'est qu'il faut qu'on reste attentive à notre santé, quelle que soit la période.
Alors là, ça c'était donc pour les traitements, mais après pour les dépistages, c'est vrai que on n'est pas malade, donc une dame n'est pas malade, elle va faire un dépistage. Donc elle peut se dire, ah ben moi pendant le Covid, j'y vais pas, parce que c'est dangereux, parce que la radiologue, peut-être dans le centre, je peux être contaminée. Ça c'est pas bien, c'est-à-dire qu'il faut pas négliger le dépistage, même en période de Covid. Certes, les radiologues prennent moins de patientes, ils font quand même très attention, il y a les mesures de protection, de distanciation, on voit moins de malades, mais il faut quand même y aller. J'insiste énormément sur le dépistage. C'est très bien d'y aller avec les mesures de précaution et afin de ne pas passer à côté d'un cancer qui débute.
Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, au moins, on a les masques, on a tout le matériel pour se protéger. Ça change quand même pas mal les choses. Docteur Khaled, vous restez avec nous. On va partir tout de suite pour la République démocratique du Congo.
À Kinshasa, 105 FM.
Pour vous retrouver, Célestin Kachunga m'a dit bonjour.
Bonjour, Madame Paré, oui.
Vous êtes coordinateur au sein de l'ONG, ONG de prévention des cancers féminins, cancer du sein, cancer du col de l'utérus en RDC. Célestin Kachunga m'a dit, qu'est-ce qui, dans votre parcours, vous a conduit à créer cette association qui est dédiée à ces cancers féminins?
Bon, en fait, Madame Paré, tout d'abord, je dois d'abord vous remercier pour cette opportunité. En fait, ce qui nous a motivés, donc, comme vous le savez, dans notre pays, jusque-là, il se pose un grand problème dans la mobilisation ou l'implication de nos autorités dans la lutte contre le cancer. Il n'y a pas encore jusque-là même un programme national de lutte contre les cancers. Et alors que sur terrain, dans les hôpitaux, les prestataires soignants ne cessent d'enregistrer autant de malades. Il n'y a pas de plateau technique adapté. Donc les prestataires soignants se débrouillent avec les moyens de bord. Et le plus souvent, nos malades viennent toujours en retard faute de formation. à ce qui concerne les screenings, les dépistages, et aussi de lutte contre les cancers.
Monsieur Madi, je vous interromps parce que je pense que vous êtes sur le haut-parleur de votre téléphone. On entend absolument tout ce qui se passe autour de vous. Du coup, c'est bien dommage, votre message passe beaucoup moins. S'il vous plaît, prenez l'appareil à côté de votre bouche et qu'on se parle directement parce que sinon on n'entend rien du tout. Donc vous avez touché du doigt l'essence du problème et l'essence d'Octobre Rose. Dépistage, il faut le faire tôt parce que sinon tout ça c'est pris en charge trop tard. Justement, sur le terrain, comment est-ce que vous faites pour mobiliser les populations?
Bon, en fait, tout d'abord, nous, à ce qui nous concerne, nous, État ONG, nous renforçons d'abord, nous formons des relais communautaires. Et ces relais communautaires-là vont vers la population pour les sortir dans l'ignorance qui les rend dépistage précoce. Et aussi, nous organisons des services de dépistage précoce. Donc, à ce qui concerne les cancers du sein, nous faisons la promotion des gestes de l'autopalpation. Mm-hmm. Et sur dans les structures sanitaires partenaires à notre organisation, nous organisons des examens cliniques des seins. Mm-hmm. Et aussi, à ce qui concerne le cancer du col de l'utérus, nous organisons des services de dépistage des lésions précancéreuses. Mm-hmm. Et aussi, une fois détectées des lésions précancéreuses, on traite ça immédiatement. Donc, on se limite au niveau de la prise en charge primaire. Parce que la prise en charge secondaire pose problème dans notre pays, mm-hmm. parce que nous n'avons pas assez d'équipements ou un plateau technique adapté dans la quasi-totalité de nos structures. Et allez-y comprendre, selon les recommandations de l'OMS, l'OMS recommande au minimum un appareil de radiothérapie pour 1 million d'habitants. Mais nous sommes plus de 86 millions d'habitants actuellement, et nous n'avons qu'une seule radiothérapie, et c'est pour un privé. Donc, allez-y comprendre. Et il se pose aussi un problème nous n'avons pas assez de médicaments dans les officines, dont les anticancéreux ne sont pas du tout disponibles. Et le plus souvent, lorsqu'on a un cas de cancer au stade 2, 3 ou au stade terminal, nous faisons ce qu'on appelle l'expertise clinique étrangère, ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mm-hmm. Là, la patiente ou le patient peut débourser à moyenne dans les 40 000 dollars, ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses.
Ah bah c'est loin d'être à la portée de toutes les bourses. On peut dire que c'est même à la portée de quelques rares privilégiés. On comprend bien le paradoxe. On fait passer le message dépistez-vous, allez faire du repérage pour savoir si vous êtes malade. Le problème, c'est que derrière, eh bien, il n'y a pas forcément d'abord tout le matériel pour avoir des examens fiables. Ensuite, il n'y a pas forcément le matériel pour avoir le traitement. Et ensuite, il n'y a pas les médicaments. Difficile hein, avec tout ça de changer la perception de la maladie parce que finalement, quand le diagnostic tombe, on peut dire que là, ben, c'est très difficile comme annonce pour les femmes parce qu'il y a peu de chances finalement d'être sauvées par la médecine.
Oui, tout à fait. Donc c'est ça, voilà ce qui me motive un peu de profiter de votre espace pour mener un petit plaidoyer. Mm-hmm. Parce qu'à ce qui concerne les pays occidentaux, vous êtes un peu avancé par rapport à la prise en charge. Donc, quant à ce qui nous concerne, nous voulons un peu solliciter peut-être une solidarité là avec les pays qui sont déjà avancés dans la prise en charge, qui peuvent nous venir en aide par rapport à ça, dans le renforcement des capacités de nos prestataires et aussi des équipements. Parce que vous savez, dans la lutte contre les cancers, si en amont les résultats sont biaisés, donc à la fin, là, on n'aura pas des résultats fiables. Donc c'est ça. Donc dans notre pays, c'est ça un problème sérieux. Et aussi, à ce qui nous concerne, à marge de ce mois d'octobre, nous allons mener des plaidoyers et solliciter auprès du gouvernement pour que nous puissions avoir un programme national de lutte contre les cancers qui n'existe pas encore jusque-là. Et c'est en partenariat avec d'autres organisations parce que c'est ensemble que nous pouvons vaincre les cancers.
Important, très important de faire passer ce message, hein, c'est qu'il faut des moyens, on l'a compris, il faut des moyens conséquents pour permettre aux femmes de se soigner. Merci beaucoup, Célestin Katshunga Madi. Bravo pour vos initiatives. Merci d'avoir été en ligne avec nous de Kinshasa. Dernière partie de cet échange avec vous, hein, docteur Nasrine Kalej. Vous voyez suivre. On comprend complètement, justement, l'importance de l'accès aux soins, accès aux structures, au personnel formé. Et là, on l'a même entendu, au traitement, la sensibilisation, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir soigner derrière.
Ça, c'est vrai. C'est le problème majeur. C'est qu'on est inégal, comme vous avez dit au début de l'émission, devant la maladie, selon les pays. Alors qu'on doit être, ça doit être l'inverse. Ça dépasse le problème médical, ça dépasse beaucoup de choses. Donc, c'est les organisations, ils font ce qu'ils peuvent. Mais je pense que c'est un problème de politique mondiale. Donc, effectivement, parfois, dans les centres comme nous, les instituts de lutte contre le cancer, il y a des médecins qui vont dans ces pays pour apprendre à opérer sur place. On envoie, mais ça c'est ponctuel, des appareils, malheureusement, qu'on a remplacés chez nous, mais c'est des initiatives ponctuelles. Et du coup, je pense que c'est à l'échelle mondiale qu'il faut qu'il y ait une véritable prise en charge.
Et prise de conscience, voilà. On le disait, 27e édition d'Octobre Rose.
C'est pour ça que je dis qu'en France, on a de la chance d'avoir le dépistage.
Absolument.
Donc les femmes, c'est gratuit, il faut qu'elles y aillent.
Quand on a cette chance, voilà. On passe pas à côté. Votre expérience, docteur Calais, une longue expérience, hein, on va pas s'en faire mystère. Qu'est-ce qui a changé justement d'un point de vue, pas seulement les traitements, on sait qu'il y a toutes ces innovations, il y a des thérapies ciblées, c'est une émission à part entière. Mais par exemple, sur l'accompagnement des femmes, qu'est-ce qui a changé?
Ah, ça a beaucoup changé depuis que c'était externe, interne. Le cancer, c'était un mot tabou, on n'en parlait pas. On disait, quand on annonçait, on disait il y a des cellules anormales. Déjà, on en parle beaucoup plus facilement grâce à la vulgarisation, grâce aux patientes qui en parlent, les organisations. Et puis, peut-être aussi que grâce à tout ça, on a pris conscience qu'à côté du traitement des cancers, il y a l'accompagnement qui est très important et aussi faire attention aux effets secondaires. Mm-hmm. Du coup par coup, les traiter et que penser qu'après le traitement de cancer, il y a aussi une vie chez une femme. Mmh. Et donc, tous les effets secondaires doivent être pris en compte. C'est pour ça qu'il y a des consultations dédiées à ça, des forums de parole. Et tout ça, ça a beaucoup changé. Et il y a aussi, je rends hommage aux patientes qui, malgré leur maladie, elles participent à tout ça et elles nous aident vraiment. Donc, le mois d'octobre rose, effectivement, c'est pour sensibiliser, mais c'est aussi pour rendre hommage aux soignants, mais aussi aux patientes qui nous aident tous les jours.
Et qui vous en apprennent aussi beaucoup. Oui. Hein. C'est un échange, c'est une interaction. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, docteur Nasrine Calais.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes gynécologue-oncologue à l'Institut Curie. Avant notre rendez-vous avec la chronique sport de Jean-Marc Sen, musique encore céleste avec ce titre, Coco Blood. Still cold, I'm up late, but these nights don't faze me. These red lights tie back, I'm leaning. No sleep, don't touch me while I'm scheming. Feel me. Rendez-vous pour parler d'activité physique et de santé tout de suite dans notre émission. Rendez-vous bien sûr avec notre monsieur sport dédié. C'est vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Médecin du sport. Alors, On entend souvent un mot hein, quand on écoute les matchs de foot, et même certains des auditeurs se plaignent d'avoir régulièrement une douleur aux muscles adducteurs après l'effort. Par exemple, après avoir participé à une séance de musculation, après donc un bon match de foot. Tout simplement pour commencer, docteur Sen, c'est quoi les adducteurs ?
Ben, les adducteurs, ce sont des muscles. Hein. Leur principal rôle, c'est de permettre l'adduction, c'est-à-dire un mouvement qui rapproche les membres auxquels ils sont raccordés. Alors, généralement, quand on parle de douleur aux adducteurs, il s'agit de la cuisse. Le but, c'est de rapprocher la cuisse de l'axe du corps, resserrer les cuisses. Alors, ces muscles sont reliés, sont insérés au niveau du pubis et puis vont jusqu'au fémur. Ils sont très puissants. La douleur, généralement, elle est en bas, au niveau du pubis, ou à l'intérieur des cuisses. La blessure, ça va de la simple inflammation jusqu'à la rupture, en passant par différents types et différents grades de lésions, finalement.
Et comment elles arrivent ? Quelles sont les causes de ces blessures ?
Ce sont des blessures qui touchent surtout les sportifs, hein, par exemple au football, au tennis, la course à pied ou la danse. Alors souvent, c'est favorisé par le surmenage justement du sportif ou le changement de terrain. On sait quelquefois quand on passe d'un terrain plutôt souple à un terrain dur, eh bien ça c'est un facteur de lésion. L'étirement mal effectué aussi peut favoriser ça, ou alors une fatigue générale favorise également cette blessure. On sait également que la taille peut influencer la robustesse des adducteurs. Les personnes de grande taille sont plus sensibles et sont plus sujets à avoir des atteintes des adducteurs que les personnes de petite taille.
Alors, on a bien compris où étaient situés ces adducteurs, comment venait la douleur. Maintenant, comment faire face, comment soigner cette blessure, docteur Sen ?
Bon, la première chose et l'essentiel, c'est le repos. On sait que dès que la douleur commence à se faire sentir, il faut éviter tous les efforts qui finalement favorisent cette douleur. On peut poser de la glace, ce qui atténue la douleur, masser légèrement. On peut interroger, bien sûr, son pharmacien pour savoir comment soulager la douleur. Et si cette douleur persiste, c'est de consulter un médecin. Et si on est sportif assidu, bien sûr, un médecin du sport. Ensuite, quand la douleur est atténuée, il faut recommencer par faire un sport comme du vélo, reprendre son entraînement progressivement et bien s'hydrater, et pour pouvoir, bien sûr, éviter la blessure. Et puis, bien dormir également. On fera attention, bien sûr, à la surface du terrain de sport en privilégiant plutôt des sols souples. Et puis, il ne faut pas hésiter à s'étirer régulièrement avant et après l'exercice. Pour ça, il ne faut pas hésiter à s'asseoir par terre. On écarte les jambes et on se penche en avant, le buste droit, sans à jamais atteindre le seuil de la douleur. Ça, c'est très important. On n'hésitera pas aussi à demander à un kinésithérapeute pour renforcer les muscles et bien apprendre les exercices à faire pour se soulager. Voilà, donc grâce à ces conseils, on espère que nos auditeurs soulageront leurs adducteurs qui seront un petit peu en apesanteur.
Tout ça finit en heure. Quel grand bonheur, docteur Jean-Marc Sen. À très bientôt. Et pour rester connecté avec vous, eh bien, il y a votre blog, Jean-Marc Sen, tout attaché en minuscules, jeanmarcsen.com. À très bientôt. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassen, Juliette Brault, Didier Bleu et Laurence Snow, ça rime encore. Demain, nous parlerons des troubles de la vision, maladie de l'œil, rétinopathie diabétique, complications de la myopie. Quels signes doivent alerter ? Cataracte, glaucome, quels symptômes, quelle prise en charge ? On en parlera demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.